Ben, on fait hop, 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 et puis voilà. Hein.
Actuel et lui.
Actuel et lui. Je vais vous faire une chronique musicale.
Alors, j'avais décidé, par légèreté d'esprit, de vous parler de mes petits plaisirs solitaires.
Je vais vous parler de télé.
Comment se soigner par les plantes ?
Je parlerai de la gaudriole.
Quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur ? Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top. Alors, à vos stylos.
Messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi, à tester et à vous faire votre idée.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Actuel et lui. Bonjour Anne-Marie.
Salut.
Voilà, Anne-Marie qui est en face de moi dans le studio, et on va dire bonjour aussi à Caroline qui est un petit peu plus loin et qui est avec nous au téléphone. Bonjour Caroline.
Bonjour à tous.
Voilà, alors aujourd'hui pour cette émission enregistrée, hein, on vous le dit aussi parce que après si vous savez qu'on se mélange, donc on préfère vous le dire, on va changer un petit peu l'ordre de d'habitude. On va commencer avec toi Caroline, de quoi vas-tu nous parler dans quelques instants?
Ah ben je vais vous parler de l'actualité récente.
Ouais, pas une actualité très joyeuse, mais une actualité sur laquelle tu avais envie de réagir.
Ouais, tout à fait.
Et ensuite, ce sera Anne-Marie. Anne-Marie, de quoi tu nous parleras ?
Eh bien, je vais continuer un petit peu dans la même lignée que celle de Caroline, en vous parlant des symboles de la République. Ça fait toujours du bien d'avoir une petite piqûre de rappel. Et on finira donc par toi, Guillaume. Tu nous parleras de quoi ?
Eh bien, moi, je vais essayer aujourd'hui d'avoir la positive attitude. Rassurez-vous, sans chanson de Laurie. mais on essaiera plutôt de retrouver un petit peu le positif sur Internet et les réseaux sociaux. Et parfois, il y en a bien besoin.
Donc, en parlant de bonnes nouvelles.
Voilà, des bonnes nouvelles.
Ça nous fera du bien.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Caroline, donc voilà, tu voulais revenir sur ces événements de ces derniers jours. On te laisse la parole.
Oui, alors je suis désolée d'être si loin de vous parce que je trouvais important cette première émission post-événement, important d'être avec vous parce que ce que j'aime dans cette émission, c'est justement sa convivialité, l'aspect amical, l'aspect bonne bouffe, il ne faut pas s'en cacher, on boit souvent des bons coups quand on fait l'émission. Toutes ces choses que ces barbares ont voulu mettre à terre le 13 novembre dernier. Donc voilà, je suis d'autant plus désolée d'être loin de vous. Mais c'était important pour moi d'être quand même avec vous un petit peu, de vous dire que depuis le 13 novembre, malgré mon métier, il y a la difficulté des mots, parce que après la sidération, il y a quand même eu la colère, un peu d'effroi, un peu de tous ces sentiments mêlés qu'on a tous traversés, et la difficulté de le dire. Alors certains l'ont dit de très belles façons, on a vu passer des choses sur les réseaux sociaux, de très belles choses, j'évite de regarder celles qui le sont moins. Et j'ai essayé de trouver un biais pour vous parler de tout ça de belle façon aussi. Et je voudrais vous parler de la quinzaine de la maternelle à l'école qui a lieu, cette quinzaine qui a démarré la semaine dernière et qui se prolonge encore cette semaine, qui a lieu dans plusieurs écoles de Lozère, écoles publiques, écoles de la République, qui met en avant la maternelle pour donner à voir et à comprendre aux parents, aux grands-parents, aux familles, ce qui se passe dans ces classes et le travail qui est fait avec nos tout jeunes enfants. J'ai été, moi, mardi, voir ce qui se passait dans la classe de mon fils. C'est proprement fabuleux et je voudrais une nouvelle fois, je l'ai déjà fait à ce micro, mais je voudrais une nouvelle fois saluer le travail formidable des enseignants. Alors, à tous les niveaux, hein, en maternelle, en primaire, au collège, au lycée, et puis après, dans les études supérieures. Et vous dire la chance que moi, j'ai eue d'avoir quelques profs formidables. Alors, je pense à Suzanne Perrier, qui était ma prof de français en 4e et 3e. Je pense à Bruno Benoît, qui était mon prof d'histoire au lycée. Je pense à Michel Wulschläger, qui était mon prof d'histoire géo en prépa. Des gens qui ont jalonné un petit peu mon parcours, qui m'ont donné ce plaisir de la connaissance, de l'éducation, des mots. Et voilà, je pense que cette chance de l'éducation et de la connaissance, on l'acquiert bien sûr avec sa famille, avec ses amis, on l'acquiert aussi et surtout avec l'école de la République. Et ça me paraissait important ce soir de le signaler. Voilà, donc je pense que c'est une des armes, une des meilleures certainement contre la barbarie. Donc voilà, je voulais saluer ça et vous faire ce petit mot.
Écoute, merci Caroline pour cette réaction ce soir. Je ne sais pas si tu veux nous en dire plus, mais sinon on va te demander ce que tu nous proposes d'écouter en lien évidemment avec ce que tu nous as dit à l'instant.
Alors cette soif de connaissance, d'éducation, elle a toujours passé pour moi par des choses très variées et diverses, par des choses très hétéroclites. J'ai des goûts très multiples et je trouve que c'est ça qui fait aussi notre richesse. Et j'ai découvert ce 13 novembre au soir un groupe de rock que je ne connaissais pas. Ce groupe du Bataclan que j'ai envie de vous faire écouter, je le connaissais pas et maintenant à cause de ces barbares ou grâce à ces barbares je l'ai écouté et je vous propose de partager une de leurs chansons.
Et voilà, donc on écoute les Eagles of Death Metal. Voilà, on en profite, c'est maintenant. Merci Caroline d'avoir été avec nous et puis
merci à vous, bonne émission et à très vite.
À très vite, à bientôt.
I came to LA to make rock and roll. Along the way I had to sell my soul. I made some good friends that make me say I really wanna be in LA. I took the train to get to Beverly, laid some rock and tape, roll up on 180. Alan and Natasha always make me say I really wanna be in LA.
On se retrouve cette fois-ci en studio, tous les deux, Anne-Marie.
Tous les deux, mais avec plein d'auditeurs.
Ah, mais oui.
C'est ça le principal.
Ben, on l'espère, parce que comme on enregistre, peut-être qu'ils ne seront pas là demain. Ben, on ne sait pas.
Mais si. Mais si, ouais, soyons optimistes, allez, Guillaume.
Bon, alors, toi, face à cette actualité, tu avais justement envie de parler des symboles de la République. Alors, après avoir parlé du symbole que pouvait représenter l'école avec Caroline à l'instant au téléphone. Toi, tu voulais nous parler de ces symboles.
Exactement. Alors, au lendemain des attentats du 13 novembre qui ont donc endeuillé la France, nous avons tous ressenti un sursaut citoyen. Hier, chanter la Marseillaise demandait un certain effort sur les terrains de foot, notamment, où on entendait aussi parfois des sifflements. Aujourd'hui, on la chante fièrement partout dans le monde. Hier, on osait à peine brandir le drapeau tricolore de peur d'être assimilé au Front National. internationale. Aujourd'hui, on l'affiche fièrement sur les photos de profil Facebook. Et même, il y a des reportages ces derniers jours, si vous avez regardé la télévision, où certaines personnes disaient, en fait, des vendeurs, notamment à Paris, disaient qu'ils n'avaient plus de drapeau tricolore. Ils étaient en rupture de stock. On a voulu nous mettre à terre. Finalement, l'ennemi a fait de nous des Français heureux d'être Français. Nous sommes libres avec des valeurs, celles de la République. Et donc, dans cette chronique, je vous propose de nous pencher sur les 7 symboles de notre République. Voilà, c'est une petite piqûre de rappel qui ne fera pas de mal, je pense.
Alors, on va commencer justement par celui qui est en rupture de stock et qui a été en berne quelques jours, le drapeau tricolore.
Alors, les constitutions de 1946 et de 1958, article 2, ont fait du drapeau tricolore l'emblème national de la République. Ce drapeau est né de la Réunion sous la Révolution française des couleurs du roi, donc à savoir le blanc, et de la ville de Paris, à savoir les couleurs bleues et rouges. Aujourd'hui, le drapeau tricolore flotte sur tous les bâtiments publics. Il est déployé dans la plupart des cérémonies officielles, qu'elles soient civiles ou militaires. Le drapeau tricolore est le pavillon officiel de la France depuis 1794 et le drapeau officiel des armées depuis 1812. Mais pendant longtemps, les trois bandes n'avaient pas la même largeur et parfois le mât était du côté rouge, parfois du côté bleu. C'est sur une décision de Napoléon Bonaparte, sur conseil du peintre Jacques-Louis David, que la réglementation actuelle a été établie. Les trois bandes doivent avoir la même largeur et le mât est toujours placé du côté de la bande bleue pour avoir bien bleu, blanc, rouge. François Hollande, président de la République, appelle d'ailleurs tous les Français à accrocher le drapeau tricolore à nos fenêtres vendredi 27 novembre, soit 2 semaines après les attentats qui se sont déroulés à Paris. Le 27 novembre, jour de l'hommage national qui sera rendu aux Invalides. À l'issue du Conseil des ministres, voici ce que Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, a déclaré devant la presse. Je le cite, le chef de l'État a indiqué que chaque Français pourrait participer à l'hommage national aussi en ayant la possibilité de pavoiser son lieu d'habitation avec un drapeau bleu, blanc, rouge, les couleurs de la France. Alors, pour information, évidemment, le verbe pavoiser ici veut dire littéralement garnir les fenêtres. Le journal L'Express écrit ceci : le drapeau français a pris un coup de jeune après les attentats de Paris, incarnant le symbole d'une société libre et ouverte, mais menacée par les djihadistes qui se rajoutent à son interprétation traditionnelle plus patriotique et sécuritaire. Après les attentats, de nombreux monuments dans le monde se sont drapés d'éclairages tricolores en solidarité avec la France. Et toi, du coup, Guillaume, est-ce que tu vas mettre un drapeau tricolore ?
J'ai pas de drapeau tricolore.
Eh ben voilà, et ben moi non plus, mais je pense qu'on pensera
peut-être,
évidemment.
On peut peut-être en imprimer un et, oui, et le coller à sa fenêtre.
Exactement, ou sinon on peut aussi peut-être mettre une bougie comme on l'a pu le faire dernièrement. Mais c'est vrai que j'ai pas non plus de drapeau tricolore, comme quoi.
Ou alors on peut mettre une chemise bleue, une chemise blanche, une chemise rouge, éventuellement, devant sa fenêtre.
C'est une bonne idée.
On poursuit avec notre devise.
Alors, issue de la Révolution française, la devise « liberté, égalité, fraternité » a été définie comme principe de la République dans la Constitution de 1848. Elle est inscrite sur le fronton des édifices publics à l'occasion de la célébration du 14 juillet 1880. Elle figure dans les constitutions de 1946 et 1958. Elle fait partie, donc, intégrante de notre patrimoine national. Cette devise a été reprise par le président des États-Unis, Barack Obama, dans son allocution quelques minutes après les attentats et quelques minutes avant aussi François Hollande, puisque c'était le premier finalement à parler suite à ces attentats. Voici ce qu'il a dit, c'était d'ailleurs quand même très touchant. Paris, donc là je le cite, Paris incarne les valeurs éternelles du progrès. Cette tragédie nous rappelle que la devise « liberté, égalité, fraternité », il a prononcé ces trois mots, il a prononcé cette devise en français, n'évoque pas seulement des valeurs françaises, mais des valeurs que nous partageons tous.
Alors, après cette belle citation de Barack Obama, on peut parler aussi d'un principe sur lequel la République est basée, le principe de laïcité.
Finalement, qu'est-ce que la laïcité ? C'est un principe qui caractérise un État dans lequel le pouvoir politique et administratif est exercé par des autorités laïques, c'est-à-dire sans participation ou intervention des autorités religieuses. L'État laïque, indépendant de toute confession, est donc neutre. Il garantit la liberté religieuse et le libre exercice des cultes, ainsi que la liberté de conscience. La laïcité est donc un principe de respect. le respect des opinions et celui des croyances. En France, c'est le 6 décembre 1905 que le Sénat a voté la séparation des Églises et de l'État. La loi était publiée le 11 décembre de la même année. Il y a quelques jours, l'Association des maires de France s'est réunie à Paris. Suite aux attentats de Paris, l'AMF, donc l'Association des maires de France, a publié un guide des bonnes conduites sur la laïcité et une quinzaine de recommandations. Alors parmi ces recommandations, eh bien, il y a pas de menu confessionnel dans les cantines, pas de subvention des cultes ou encore pas de crèche de Noël. Selon les maires, réaffirmer le principe de laïcité aidera à lutter contre l'extrémisme.
Ils ne sont pas tous d'accord avec ces éléments-là, mais bon.
Ils ne sont pas tous d'accord, surtout pour la crèche de Noël, d'autant plus que là, on va en parler, forcément.
Sur les menus à la cantine aussi.
Et sur les menus, après, ça dépend, effectivement. Mais c'est vrai que la crèche de Noël, bon, en plus, voilà, comme on est, on va être en plein dedans dans quelques jours. On sait aussi, Robert Ménard, par exemple, on s'en souvient à Béziers.
Il a mis en scène aussi cette crèche.
Voilà, et bon, effectivement, ça ne fait pas l'unanimité concernant ces menus et la crèche de Noël.
Mais bon, le principe de laïcité, lui, par contre, est effectivement un principe fondateur de la République.
Oui, oui, oui. Puis encore une fois, ce que je viens de dire, c'était des recommandations qui ont été dictées par l'AMF. Hein.
Alors, on continue avec d'autres symboles de la République française. Le 14 juillet, Marianne.
Entre autres, effectivement. Alors, journée révolutionnaire parisienne devenue fête nationale, le 14 juillet associe aujourd'hui la solennité des défilés militaires et la convivialité des bals et surtout, évidemment, des feux d'artifice.
Et des pompiers.
Oui, effectivement. Alors, généralement associé à la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, indique en réalité la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, qui est commémorée en France depuis plus d'un siècle. On désigne sous le nom de fête de la Fédération la fête qui fut célébrée au Champ de Mars de Paris, le 14 juillet 1790, premier anniversaire de la prise de la Bastille. Dans un climat d'union nationale, on y vit une grande foule réunie autour du roi et des députés des 83 députés. Louis XVI assista à cette fête et y prêta serment à la nation et à la loi. Alors concernant Marianne, bien que la constitution de 1958 ait privilégié le drapeau tricolore comme emblème national dont nous vous avons parlé en début de chronique, Marianne incarne aussi la République française. Les premières représentations d'une femme à bonnet phrygien, allégorie de la liberté et de la République, apparaissent sous la Révolution française. Donc on en revient toujours à l'Association des maires de France qui choisit régulièrement des Françaises célèbres pour prêter les traits de Marianne. Alors on se souvient de Brigitte Bardot, évidemment, ça c'était en 1968, de Michel Morgan aussi en 1972, Mireille Mathieu en 1978, et ça va te faire plaisir, Guillaume.
Dis donc, ça doit pas être très top. Hein.
Mais pour le coup, je m'en souvenais pas de Mireille Mathieu.
Oui, parce que la coupe au bol pour Marianne, c'est vrai que c'est pas très...
Il y a eu Dorothée aussi en 1984. Ah oui. Catherine Deneuve en 1985, Inès de la Fressange en 89, Laetitia Casta en 2000.
Ça, je m'en souviens bien, oui. Laetitia Casta.
Et Sophie Marceau en 2012. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, enfin, en tout cas pour moi, c'est peut-être Brigitte Bardot qui... Enfin voilà, je...
Moi, c'est plutôt Laetitia Casta.
Ah ouais ? Bon, comme quoi. De son côté, le coq apparaît dès l'Antiquité sur les monnaies gauloises. Il devient symbole de la Gaule et des Gaulois à la suite d'un jeu de mots, puisqu'en fait, le terme latin gallus signifie à la fois coq et gaulois. Si la République française lui préfère aujourd'hui le symbole de la Marianne, il figure toutefois sur le sceau de l'État, qui est celui de la Seconde République, la liberté assise sur un gouvernail sur lequel est représenté le coq. Il est surtout utilisé à l'étranger pour évoquer la France, notamment comme emblème sportif. Puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'on gagne, on aime bien dire cocorico.
Après, sur tous les tampons des mairies, etc., c'est Marianne qui est présente.
Tout à fait.
On termine avec la Marseillaise.
Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je termine cette chronique évidemment par la Marseillaise, chant patriotique de la Révolution française, adopté par la France comme hymne national. La Marseillaise est composée de 12 couplets, je ne suis pas sûre qu'on les connaisse par cœur.
Ah non, ça c'est sûr.
Les 6 premiers ont été écrits en 1792 par Rouget de Lisle.
Rouget de Lisle.
Rouget de Lisle, j'ai dit quoi ?
Rougy.
Ah pardon. Rouget de Lisle, officier français, poète et auteur dramatique. À New York, le samedi 14 novembre, soit au lendemain donc, des attentats, Placido Domingo et l'orchestre du Metropolitan Opera avaient fait retentir l'hymne national français en version originale avant la représentation de la Tosca. Notre hymne national a aussi été chanté le 17 novembre par les supporters anglais et français dans le stade du Wembley pendant avant le match de foot. Voilà. Et mardi 24 novembre, le groupe Scorpion a fait chanter la Marseillaise aux 16 000 personnes présentes à leur concert à Bercy. Alors, bon, j'ai donné ces exemples, mais effectivement, on a chanté la Marseillaise dans le monde entier. La Marseillaise qui est donc devenue le symbole de l'unité de la nation, de la solidarité et de la résistance en réponse à ces terribles attentats.
Alors c'est vrai que ces paroles, elles ne sont pas forcément toujours... Enfin, dans une période comme aujourd'hui, on aurait presque envie quand même de chanter des paroles plus pacifiques finalement. Mais c'est vrai que c'est un peu un éternel débat, cette question-là. Et puis ce sont des paroles, comme tu le disais, historiques. Hein.
Voilà, ça fait partie de notre histoire.
Voilà, donc, Mais c'est aussi un sujet... c'est vrai que le sang impur, etc., bon... peut être aussi mal compris peut-être dans la situation actuelle.
Oui, bon, après il faut aussi ouvrir nos livres d'histoire et un petit peu mieux comprendre d'où l'on vient pour aller où on va.
Alors là je crois que tu vas faire un énorme plaisir à Yaël, hein. On va lui faire un petit coucou, notre secrétaire de 48 FM, parce que tu as décidé pour continuer dans cette thématique et justement nous préparer à la positive attitude qui viendra après, d'écouter Michèle Thor.
Écouter Michèle Thor, effectivement, puisqu'elle a chanté « J'en appelle à la tendresse » et je pense qu'aujourd'hui, on en a bien besoin. Donc voilà, je vous propose d'écouter « J'en appelle à la tendresse » de Michèle Thor.
Devant ces yeux d'enfants qui ont froid, qui ont peur, que la région vous brûlera les mains. Devant ces présidents qui dirigent le monde, qui jouent au cerf-volant avec toute leur bombe. Devant les synagogues, devant les cathédrales, il n'y a qu'un bon Dieu, mais toujours plusieurs diables. Devant ceux qui n'ont rien, devant ceux qui ont tout, s'il le faut, je veux bien me chanter à genoux.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Et voilà, donc dans cette troisième partie, qui sera présentée par toi, Guillaume, puisque tu veux nous parler d'une positive attitude. Ça nous fera sûrement du bien, c'est ça, Guillaume ?
Eh bien oui, j'avais envie de vous parler du positif, c'est aussi de mettre de côté tous les mauvais moments vécus ces derniers jours. Et donc, je suis principalement allé sur les réseaux sociaux. Alors, ils ne sont certainement pas les meilleurs endroits pour le positif, surtout en ce moment. Mais je vous ai quand même trouvé parmi les trucs un peu moins sympas les actus positives dont on va parler aujourd'hui.
Et donc tu nous proposes de commencer avec des sujets sur la santé et d'abord le mal de dos au bureau qui fait souvent très très mal, hein, c'est ça,
on n'est pas bien
au bureau.
Et bien d'après différentes études, la position assise classique à un poste de travail serait nocive pour la santé, générant de graves problèmes de dos. Alors je ne sais pas si c'est ton cas Anne-Marie, parce que ton métier t'oblige à être devant ton ordinateur quand même un petit peu.
Ouais, enfin, moi si j'ai mal au dos c'est pas forcément parce que je suis mal assise. Mais,
D'accord. Alors donc après 5 années de recherche, le bureau de design américain At Workstation vient de présenter un fauteuil révolutionnaire couplé à une tablette aimantée. Le fauteuil, baptisé sobrement At Workstation, épouse tous les mouvements du corps de son utilisateur, permettant de travailler debout, assis et même allongé, incluant l'ordinateur, le clavier et la souris dans les rotations du fauteuil. Ce petit bijou de technologie sortira courant 2016, je ne vais pas y arriver. Seul bémol, son prix, 3 500 €. Alors, je t'ai mis
ça
la photo, Marie.
En fait, je n'avais pas compris au début. Et maintenant que je la vois, je comprends effectivement. Oui, le gars, il est carrément penché en arrière. C'est assez bizarre. On a l'impression qu'il est au futuroscope.
C'est ça.
Alors, par contre, moi, j'ai des solutions qui sont beaucoup moins chères hein, quand tu as mal au dos devant ton ordinateur. Alors, il y en a qui le font de plus en plus, c'est se mettre carrément debout. Ou bien, tu t'assois tout simplement sur un ballon de. Quand tu es femme enceinte, généralement, tu fais des exercices sur un gros ballon. Et c'est bien de s'asseoir dessus, puisqu'en fait, tu fais travailler les abdos et tu renforces ton dos. Voilà. Et ça ne coûte pas 3 500 €.
Mais voilà, merci pour les petits conseils, Anne-Marie.
Voilà. Et donc, on va continuer. Alors, toujours sur la santé, il y a eu du nouveau sur la recherche du cancer.
Oui, la recherche, la lutte contre le cancer, avec des chercheurs de l'université d'Emory à Atlanta, aux États-Unis, qui ont découvert que la rhubarbe renferme un pigment aux propriétés intéressantes dans la lutte contre le cancer. Leur étude, dont les résultats sont rapportés par Le Parisien, a ainsi permis de mettre en lumière un pigment aux propriétés chimiques capables de réduire l'impact d'une protéine aidant au développement des tumeurs. Et donc, ces scientifiques ont pris pour base cette formule concentrée de ce pigment dont le rôle jusqu'à présent se limitait à colorer les fameuses tiges de rhubarbe en rouge. Voilà, donc cette étude tend à démontrer une action de blocage de ce pigment envers la protéine 6PGD, une protéine au rôle essentiel dans le développement des cellules tumorales. Et quand la 6PGD se voit neutralisée, les cellules se développent bien moins et la croissance tumorale baisse en intensité. Voilà, donc des études approfondies doivent toutefois être menées sur des organismes humains afin de permettre de confirmer ces premiers résultats, ceci ayant été obtenu uniquement en laboratoire. Donc ne vous jetez pas encore sur la rhubarbe, vous avez encore un peu de temps.
Mais on peut toujours en manger, puisque c'est bon pour la santé. Alors on continue toujours avec des informations très positives, hein, puisqu'il y aurait une amélioration au niveau de l'épidémie d'Ebola en Afrique.
Et oui, on arrive presque à la fin, hein, puisque le dernier cas connu d'Ebola en Guinée a été déclaré guéri. Une petite fille de 3 semaines, dont la mère est morte, a été officiellement déclarée guérie il y a quelques jours. La fin de l'épidémie pourra être annoncée à Conakry dans 42 jours, puisqu'il faut que qu'il y ait deux fois la durée maximale d'incubation du virus. Ça fait beaucoup rire Anne-Marie. C'est mes hésitations.
C'est plus ça. Le bug que l'info.
Voilà, donc il faut qu'il y ait deux fois la durée maximale d'incubation du virus pour qu'on puisse considérer que l'épidémie est terminée. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un test négatif et aucun nouveau cas signalé. Donc l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus en 1976, a fait au moins 11 300 morts sur 29 000 cas recensés. Les victimes se concentrent à 99% dans 3 pays limitrophes. La Guinée, d'où est partie l'épidémie en décembre 2013, et où donc a priori ça semble être bien parti pour être fini, la Sierra Leone et le Libéria. Bon, cette nouvelle est quand même entachée par l'annonce aussi de 3 nouveaux cas au Libéria, donc pour ce pays, c'est pas encore tout à fait terminé. Mais bon, on devrait, c'est surtout qu'il avait été déclaré débarrassé du virus le 9 mai par l'OMS. Donc bon, malgré tout, on sent que cette épidémie se restera. Donc on arrive quand même à la fin de ce mauvais passage au niveau médical en Afrique de l'Ouest.
Santé toujours, c'est désormais un classique du mois de novembre, les photos un verbe et les photos de moustache sur les réseaux sociaux. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Guillaume ?
Eh bien oui, c'est Movember, le mois de la moustache qui court donc pendant tout le mois de novembre.
Mois international ?
Oui, mois international, des hommes de tout âge qui se laissent pousser la moustache pendant 30 jours pour la bonne cause, récolter des dons pour la santé masculine.
C'est ce que tu fais ?
Ben non, moi j'ai la barbe en permanence, donc c'est vrai que bon, voilà, c'est malheureusement, voilà, il aurait fallu tout couper avant, mais c'est compliqué. On fera un sujet barbe
trop
un jour.
Trop dur si la vie.
On fera un sujet barbe, je vous promets une fois. Toutes les communautés de France donc se mobilisent lors du mois de novembre dans un souci de sensibilisation à la santé masculine. Les travailleurs, les étudiants, les clubs de sport, les jeunes s'impliquent sur un plan international et national. L'intégralité des dons récoltés est attribuée à des programmes de recherche et de santé masculine. Depuis 2003, la fondation Movember a récolté plus de 480 millions d'euros dans le monde entier. Plus de 1000 programmes ont été financés dans 21 pays, notamment de lutte contre les cancers de la prostate et de la vessie.
Alors on en a fini avec la santé et on ouvre une page d'environnement, même si finalement on sait que l'environnement peut avoir un impact sur la santé. Donc on ouvre cette page d'environnement alors que commence la COP21 à Paris, beaucoup d'actus positifs dans ce domaine et on commence avec des villes qui s'engagent pour moins polluer. Ça c'est pour le coup une excellente nouvelle.
Oui, alors bon, vous allez voir, c'est pas pour tout de suite, hein, parce qu'on part d'abord à Londres, qui arrête ses centrales à charbon les plus polluantes d'ici 2025. Donc ça nous laisse à peu près 10 ans, donc voilà. Malgré tout, la ministre de l'énergie et du changement climatique britannique, Amber Rudd, a annoncé que toutes les centrales électriques du pays fonctionnant au charbon réduiront leur production dès 2023 et qu'elles auront cessé leur activité en 2025. Donc c'est pas pour tout de suite, mais ça va quand même dans le bon sens. Alors après, on reste en Europe et on va du côté du Danemark, avec des progrès qui sont beaucoup plus importants et qui sont annoncés. La ville de Malmö, y a un match de foot ce soir, qui est situé près de la frontière danoise, risque de beaucoup faire parler d'elle justement par rapport à ce grand projet, puisque depuis les années 90, la ville travaille à améliorer son autonomie et surtout sa consommation énergétique. Vitrine de cette intention, la tour Albarheten, implantée dans le quartier West Harbor. Cet immeuble est un véritable bijou de technologie et rassemble à lui seul pas moins de 4 technologies différentes du domaine de l'énergie durable et renouvelable. Il est par exemple possible d'apercevoir sur le toit des éoliennes et des panneaux solaires. À l'intérieur du complexe, on retrouve également des systèmes d'aquifères et les habitants de la tour peuvent ainsi contrôler la luminosité et la chaleur pièce par pièce et suivre en direct leur consommation énergétique. Le chauffage de l'immeuble est assuré par l'ensemble de l'électroménager dont la chaleur est conservée et réutilisée. Via ce projet et d'autres, la ville espère atteindre l'objectif, un effet neutre sur le climat d'ici 2030. Donc le projet est plus ambitieux que simplement arrêter les stations au charbon, mais voilà, donc aussi une démarche intéressante.
Tout à fait. Et alors il y a aussi des villes aux États-Unis qui se mobilisent pour l'environnement.
Et oui, c'est pas forcément l'image que les Américains ont. Alors,
non, pas vraiment.
Et là, en plus, c'est une grande ville, c'est San Francisco, qui ambitionne de devenir bientôt la ville zéro déchet. Alors même si la Lozère vient justement d'être lauréate d'un appel à projet pour limiter le gaspillage.
Zéro déchet, zéro gaspillage.
Voilà. Donc depuis quelques temps, donc, la ville du Golden Gate Bridge, qui compte quand même plus de 7 millions d'habitants avec la péninsule de San José, milite donc pour devenir cette ville zéro déchet d'ici 2020. Là, on se rapproche un petit peu. Et à 5 années de la deadline, la commune approche du but avec près de 80% de déchets en moins et plus aucun matériau non renouvelable vendu dans la ville. San Francisco a ainsi installé 3 types de poubelles, la décharge, le compost et le recyclage.
C'est bien. et du nouveau aussi donc du côté de la protection des animaux.
Et oui, en effet, les chimpanzés ne seront plus des cobayes. En tous les cas, ils ne serviront plus à la recherche gouvernementale aux États-Unis. Ces animaux qui sont les plus proches de l'homme avec 98% de gènes en commun ont été enregistrés parmi les espèces menacées par le service de la pêche et de la vie sauvage américain. En outre, les 50 derniers représentants de l'espèce encore captifs vont être mis à la retraite dans un sanctuaire. Et puis à noter aussi la remise en liberté d'un panda en Chine. Hua Jiao, une femelle panda géante âgée de 2 ans, a été relâchée dans la nature au sein de la réserve naturelle de Liziping dans la province du Sichuan. En 2012, un panda issu des mêmes parents que Hua Jiao et baptisé Tao Tao avait déjà été relâché dans cette région, connue pour être l'habitat naturel de cette espèce menacée.
Bien, Brigitte Bardot doit être contente. Tu vas nous parler maintenant d'une idée originale en Islande pour préserver les paysages.
Oui, alors l'Islande est remplie d'innombrables paysages aussi sauvages que magnifiques. Et là, les images ont parcouru aussi les réseaux sociaux. Pour préserver ce cadre digne d'une carte postale, le cabinet islandais Shoei Shine Architect a trouvé la parade pour ne plus dénaturer avec des pylônes électriques et des éoliennes, tout simplement en les camouflant. Et donc, depuis peu, on peut observer une douzaine de grands hommes et femmes métalliques se hisser un peu partout en Islande en guise de pylônes ou d'éoliennes, une manière finalement insolite de conserver ce patrimoine naturel, façon île de Pâques moderne peut-être, oui, des idées aussi pour la Lozère.
Mais j'ai vu aussi une photo tournée, mais c'était pas...
Avec des animaux
oui,
aussi.
Oui, voilà, avec des animaux.
Tout à fait. Voilà.
Et alors, si on veut être encore plus écolo, il existe également une application pour changer notre quotidien.
Et oui, alors après les innombrables applications de trading sportif ou les applications de rencontres, je vous rappelle notamment l'application de rencontre entre moches de la dernière fois.
Tu as été ou pas d'ailleurs ?
Non, je ne suis pas allé voir. Mais bon,
non, mais c'est pas.
Tu m'avais fortement déconseillé d'y aller. Hein.
Donc, mais c'est pas pour que tu t'y inscrives, attention.
Oui, non, j'entends bien. 90 jours propose donc cette application. 90 jours propose une nouvelle façon de coacher sa vie façon écolo. L'application propose une vingtaine de petits défis au quotidien pour modifier nos habitudes de manière plus saine. Manger des fruits de saison, changer de fournisseur d'énergie pour une consommation plus propre, éviter de gaspiller de l'eau inutilement et tout un autre tas d'astuces. Une hotline est également à disposition pour aider les utilisateurs de l'appli ainsi qu'un suivi par mail. Hein. C'est comme si on arrêtait de fumer finalement. Et les détenteurs de 90 jours pourront aussi consulter les statistiques pour connaître les kilos de CO2 et les litres d'eau économisés grâce à l'application. Alors le but n'est pas simplement de convertir ces utilisateurs, mais simplement de les aider à améliorer leur quotidien ainsi que l'état de la planète à leur niveau. Donc voilà, l'application est disponible sur l'Apple Store et sur Android.
Donc après la santé et l'environnement, tu vas nous parler du vivre ensemble. Et on commence avec un sujet en lien avec les élections régionales en se posant la question, dans quelle région de France êtes-vous heureux ? Sommes-nous voilà. heureux ? Alors Tant on est heureux où ?
Eh bien, je vais vous dire qu'on est bien heureux chez nous. Effectivement, en ce moment, les instituts de sondage nous font plutôt part de statistiques concernant les futures élections. Mais donc là, c'est un sondage réalisé par l'Institut BVA. Une enquête sur 12 408 personnes, hein, ce qui est relativement beaucoup hein, pour un sondage. Il fallait avoir un peu des panels dans chacune des régions assez importants. Donc, ont été interrogés à propos de leur ressenti sur leur vie, la situation de leur région. 86% des Français se disent satisfaits de la région où ils résident. Alors les plus ravis sont ceux habitant dans les régions du Sud, donc forcément nous. 91% des personnes résidant en Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente, hein, la nouvelle grande région de l'Ouest, du Sud-Ouest. Et puis 92% en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, hein, chez nous. Et 92% également en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais les Bretons sont aussi contents, 92%. Alors, les Français les moins réjouis habitent en Île-de-France. 73% seulement de personnes sont satisfaites d'y habiter. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, 80%. Voilà. Toutefois, 45% seulement des Français déclarent être optimistes en ce qui concerne l'avenir de leur région. Les plus pessimistes vivent à l'Est, en Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. Et seuls 34% se disent optimistes là-bas. Et au Nord, dans le Nord-Pas-de-Calais, 31%. Alors, le petit conseil, c'est... On reste positif, on reste motivé, hein, positive attitude, on écoute le rythme.
Et on va vivre dans le sud, quoi, on déménage.
C'est ça.
Alors juste, moi ça m'a fait sourire en fait quand tu as parlé de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes en disant sud-ouest, même si effectivement c'est la région sud-ouest, mais bon, quand on sait où se trouve le Poitou et le Limousin, c'est vrai que sud-ouest, bon, ça m'a fait sourire. Bref, alors tout le monde l'a vu hein, dans son fil Facebook, il y a une institutrice qui a créé le buzz dans le monde entier pour ses élèves. Alors tu peux nous en raconter un petit peu plus, s'il te plaît?
Et oui, c'est Céline qui est institutrice à Noirmoutier en Vendée, donc sur une île, qui a publié le 9 novembre un message original sur Facebook. Bonjour, nous sommes une classe. Cette année, nous travaillons sur les pays du monde et nous aimerions recevoir des cartes postales des quatre coins du monde pour étudier les pays. En échange, nous vous enverrons un email de remerciement avec photos, dessins, etc. Merci de partager notre message pour qu'il fasse le tour du monde avant juillet 2016. Signé Les Lutins. Alors, les petits écoliers se sont impliqués à signer sous le texte écrit à l'ordinateur. Et donc, tout le monde a vu cette image. Le message a ému les internautes sur le réseau social. Céline a eu en effet de nombreux messages de soutien venant du monde entier. Et son courrier a été traduit en anglais et en espagnol pour rendre le message plus international. En seulement 48 heures, son message avait été partagé plus de 90 000 fois. Alors, je ne suis pas retourné voir, mais voilà. Mm-hmm. Mais pour nos auditeurs de l'étranger, on compte sur vous, envoyer une carte à Céline et aux enfants de l'école de Noirmoutier.
Et peut-être que Céline va recevoir une carte postale de ce restaurateur qui offre une réduction à ses clients juifs et arabes qui mangent ensemble.
Et oui, alors afin de prôner l'unité et la paix entre les communautés, un restaurateur dont l'établissement est situé dans la région de Kfar Vitkin, dans le nord d'Israël, a décidé d'instaurer une réduction de 50%, c'est quand même pas une réduction mineure, hein, sur la note de ses clients arabes et juifs venant consommer ensemble. La carte, elle aussi, prône la diversité avec des plats d'origine multiple. Peur des arabes, peur des juifs, chez nous il n'y a ni arabes ni juifs, dit-il. Chez nous il n'y a que des humains et un excellent houmous arabe et d'excellents falafels juifs, que vous soyez arabe, juif, chrétien ou indien. Voilà, tout ça, une initiative donc postée sur Facebook en hébreu et qui a fait le tour du monde, donc un exemple aussi à suivre pour faire tomber certaines barrières.
Et puis ça fait du bien d'entendre ces mots. Mmh. Et donc voilà, pour finir la page amour, et donc tu nous proposes pour finir une page amour et
coquinerie.
Bon, d'accord. Oui. Et on commence peut-être par l'amour à distance.
Oui, alors là aussi, vous les avez peut-être vus traîner sur vos réseaux sociaux. Don Bichin et Seok Lee, qui habitent respectivement à New York et à Séoul, donc qui sont séparés par près de 14 heures d'avion. Le couple a trouvé un moyen plutôt insolite pour rester fusionnel. Très régulièrement, alors qu'ils pratiquent la même activité ou le même geste, ils prennent une photo en simultané et créent un montage. Cette série de photos nommée Half and Half a de quoi donner le sourire, c'est vraiment très sympa. C'est-à-dire que chacun est pris devant une arche par exemple, mais avec voilà, les photos sont ensuite redécoupées et ne forment plus qu'une, comme s'ils étaient ensemble. La série est très sympa, voilà, j'en ai mis 6 à Anne-Marie pour oui, le découvrir.
Mais je les avais déjà vus voilà, à la télévision aujourd'hui, voilà, pour tout te dire, il y avait un reportage dessus. Et voilà, oui, effectivement, c'est gentil,
mignon, voilà.
C'est gentil. Et puis alors, on continue toujours dans cette page coquinerie. Amour et coquinerie, enfin là, ça sera plus coquinerie qu'amour d'ailleurs, puisque tu vas nous parler des États-Unis où des sextoys luttent contre les armes à l'école.
Oui,
ça fait peur.
Effectivement. Aux États-Unis, s'armer est devenu un jeu d'enfant, car selon le deuxième amendement de la Constitution, chaque citoyen américain a le droit de se défendre.
On en voit souvent les résultats.
Voilà. Oui, tout à fait. Une facilité pour la circulation des armes dans le pays qui, cette année, a généré des fusillades dans 52 écoles, malgré tout. Le 13 juin dernier, Greg Abbott, le gouverneur républicain d'État du Texas, a signé une loi autorisant tous les étudiants de plus de 21 ans à se munir de leurs armes pour aller en cours, tant qu'elles restent invisibles aux yeux des autres. Un décret visant à rendre la vie étudiante plus sûre, qui devrait rester en vigueur d'ici l'été 2016. Entrer en vigueur d'ici l'été 2016. Pour lutter contre l'introduction des armes dans le milieu universitaire, Jessica Jean, étudiante à l'Université of Texas, a décidé de lancer une initiative insolite. Et donc, alors que le port des armes est recommandé, exprimer librement sa sexualité est en revanche puni par la loi. comme par exemple la possession d'un sextoy en classe. Donc vous pouvez venir avec une arme, mais pas avec un sextoy.
C'est vrai qu'un sextoy, c'est tellement dangereux.
C'est ça. Donc pour lutter contre cette libéralisation des armes, elle a réussi à convaincre près de 4000 étudiants quand même d'accessoiriser leur sac des plus imposants sextoys qu'ils pourront trouver. Alors je sais que les sextoys de qualité, surtout les grands, peuvent être assez chers. Si nous parvenons à réussir à 7 participants, je m'occuperai personnellement de trouver un sponsor, a-t-elle déclaré. Voilà, donc une initiative assez marrante finalement pour aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément des armes partout.
Et on termine avec des pompiers sexy pour la bonne cause. Alors dis-nous tout, est-ce que ces pompiers, ce sont les pompiers mandois ?
Et ça pourrait, mais non. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait de mandois dans cette organisation, dans cette ONG de solidarité internationale, Pompiers sans frontières, qui est spécialisée dans l'aide au développement. Et donc pour se financer cette année, les membres de l'association ont décidé de montrer leur charme sous l'œil de Fred Goudon, le photographe de mode et le créateur du fameux calendrier des lieux du stade. Et donc à travers des photographies inédites réalisées spécialement pour ce calendrier étonnant, de vrais pompiers, professionnels et volontaires, membres de l'ONG, se sont donc mis à nu dans une maquette originale et incendiaire.
Oui, alors là, si je peux me permettre, Guillaume, donc en fait, tu m'imprimes des photos de couples dont tu nous as parlé tout à l'heure. Il y en a un qui habite à New York, l'autre à Séoul, et là, on voit les photos donc, d'une main, des toilettes et tout ça. Bon, moi, je veux bien, ok. Et par contre, quand tu nous parles d'un calendrier avec les pompiers sans frontières, hyper sexy, tu nous dis la maquette originale et incendiaire, et moi, j'ai pas de photos.
Et oui, je suis désolé, mais les photos, elles sont, il faut les acheter, c'est pour ça.
Eh ben, tu pouvais pas faire ça. Et non, tu pouvais pas faire ce geste, Guillaume.
Bon, mais on verra ça. Bon, je sais t'offrir ça peut-être.
Moi, je suis vexée. Hein.
Donc voilà, ce calendrier est en vente depuis le 23 septembre 2015. Il coûte la modique somme de 19,95 € en librairie et de 26,30 € si vous le commandez sur le site des Pompiers sans frontières. Voilà, et tous les frais d'auteur vont évidemment à l'association. Et si vous participez à leur projet Ulule, c'est l'achat d'un camion de pompiers pour le Liban, à hauteur de 80 €, vous recevrez le calendrier aussi chez vous. Donc voilà, ce don, une fois déduit de vos impôts, ne coûtera que 27 €. Et c'est l'occasion, là, en cette fin d'année aussi, de penser à donner, parce que ça fait aussi des réductions d'impôts pour l'année prochaine.
Tout à fait. Puis j'en profite pour dire que le Téléthon, c'est pour bientôt aussi.
Et oui, tout à fait.
Voilà. Eh bien, écoute, merci Guillaume pour cette chronique qui nous fait du bien au moral. Et pour continuer, eh bien, tu vas nous proposer une musique. Tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors je vais vous proposer d'écouter deux titres d'un album qui s'appelle Un monde meilleur de Kids United, qui est sorti le 20 novembre. On a vu un petit peu la pub à la télévision. Je vous proposais d'écouter On écrit sur les murs, voilà, une très belle chanson, qui est le single. Et puis on écoutera aussi Imagine, voilà, aussi un petit peu de lien avec ce qu'on s'est dit en début de chronique. Donc, ces Kids United, ce sont Carla, Esteban, Erza, Nilouzi, Gloria et Gabriel, 6 prodiges de 8 à 15 ans, qui s'engagent pour les droits de l'enfant en interprétant les plus belles chansons sur la paix et la tolérance dans cet album Un monde meilleur. Si talentueux enfants, déjà remarqués par le grand public pour certains, qui ont uni leur voix sous l'égide de l'UNICEF pour cet album, disponible depuis le 20 novembre, depuis cette journée internationale des droits de l'enfant. Une partie des bénéfices de la vente de cet album sera reversée à l'UNICEF, afin de permettre aux équipes de l'UNICEF sur le terrain, dans les pays en voie de développement, de poursuivre et de renforcer leur programme de secours et de protection. Voilà. La sortie de cet album en ce moment finalement fait aussi du bien avec ses chansons et ses messages qui sont interprétés par des enfants. On se dit que l'avenir sera peut-être meilleur. Voilà, on écoute.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons leur écrit, car dans la nuit tout s'efface.
Sur les murs, le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Que l'on voudrait dire, on écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
Actuel et lui. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, on n'avait pas une très très grande humeur hein, aujourd'hui, mais on a essayé quand même de vous donner un peu de positive attitude et on vous en souhaite pour la quinzaine qui vient. Vous pouvez nous réécouter évidemment le jeudi à 12h30 et le mardi à 19h. Vous pouvez nous retrouver également sur 48fm.org. Voilà, écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses.
Beaucoup de bonheur.
Voilà, et on vous dit bonne quinzaine.
À bientôt.
Et à bientôt.
Ciao, ciao.
Factuel, elle et lui.
Factuel et lui.
Actuel et lui.